France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Ah, le retour du printemps et ses concerts matinaux de chants d'oiseaux. Aujourd'hui, on rencontre l'un des plus grands amoureux et fervents défenseurs de ces volatiles, l'ornithologue Grégoire Loïs est notre invité. À l'heure actuelle, on dénombre un peu plus de 10 000 espèces d'oiseaux. Dans le règne animal, certaines de leurs capacités physiologiques sont uniques. Les martinets noirs font plusieurs fois la distance Terre-Lune. Chez les maisons charbonnières, il existe un héritage culturel et les pinsons des arbres ont eux aussi des accents régionaux. Les oiseaux communs font partie intégrante de la biophonie et de nos univers perceptifs. Mais les paysages naturels sonores se vident. Depuis 25 ans, Grégoire Loïs assure la vigie de ces biodiversités dites ordinaires. Grégoire Loïs, l'oiseau rare de la biodiversité. Et Grégoire Loïs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ornithologue, naturaliste amateur au MNHN et directeur adjoint du programme de sciences participatives Vigie Nature. Merci d'être avec nous, ici dans nos studios à France Culture.
Merci à vous.
Merci à vous également qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est sur notre compte @sciencesCQFD. Alors, que peut-on apprendre en écoutant le chant d'un pouillot véloce ou celui d'une avocette élégante? Pourquoi les oiseaux communs constituent-ils une biodiversité capitale et quels sont ceux qui sont les plus impactés par la crise environnementale? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quelle est la particularité du métier d'ornithologue? Un élément de réponse avec notre archive du jour.
Une des qualités fondamentales de l'ornithologue et du naturaliste d'une manière plus générale, c'est la patience. Il est absolument hors de question d'espérer faire quoi que ce soit d'intéressant si on arrive à un endroit avec les réflexes urbains et de citadins et qu'on se dit bon, 5 minutes, qu'est-ce qu'il y a à voir, hop, il faut que je reparte. Non, on arrive, on sait qu'on va y consacrer quelques heures et que par conséquent on va devoir faire preuve de patience. On s'assied, on regarde, on a tous les sens en éveil. C'est un petit peu vraiment sans jeu de mots le retour à la nature, c'est-à-dire qu'on va être sensible au moindre bruit, au moindre crissement, au moindre battement d'ailes, à la moindre modification du paysage. Tiens, pourquoi est-ce que cet arbre a bougé là? Est-ce qu'il n'y aurait pas sur cette branche un oiseau? Et tout à l'heure, est-ce qu'il y avait aussi cette silhouette posée sur l'arbre? Est-ce que ce ne serait pas un héron qui lève la tête? Enfin, vous voyez, il faut vraiment mener une enquête permanente, être totalement ouvert, réceptif. Et c'est pour ça que ça fait d'ailleurs autant de bien, à mon sens, de venir ici et de regarder un petit peu tout ce qui s'y passe. C'est parce que vous oubliez tout. Là, par exemple, on a deux grands cormorans qui passent sur fond de ciel bleu, sur fond de nuages. On est en train de les regarder. Ils battent lentement des ailes. Leur silhouette est majestueuse. Ils commencent à planer, probablement se poser, rejoindre ceux qui sont déjà posés sur l'étang. Et pendant qu'on est en train de les regarder, on ne pense à rien d'autre. On oublie tous les soucis et ça fait quand même beaucoup de bien.
Voilà l'ornithologue Guillaume Le Saffre qui nous a quittés cet automne. Un extrait de l'émission « Je vous écris du plus lointain de mes rêves » sur France Inter en 2001. Grégoire Loïs, quelle qualité donc pour ce métier? La patience?
Ah ben, comme le disait Guillaume, c'est extrêmement émouvant cette archive. Hein. C'était quelqu'un que j'estimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme le disait Guillaume, c'est un loisir de spectateur. On peut pas être simple consommateur, arriver, exiger, repartir. Ça se fait un petit peu avec les espèces de recherche d'oiseaux rares, mais sinon c'est quand même on est spectateur. On tombe par hasard sur tel ou tel phénomène. On tombe par hasard sur un accouplement, sur une interaction, sur une prédation, quelque chose comme ça. En tout cas, on peut pas arriver, exiger comme ça. Et effectivement, l'affût, puisque nous entre naturalistes on appelle ça l'affût. Hein. C'est effectivement se poser tranquillement, à plusieurs éventuellement, et puis rester silencieux, ou presque silencieux, puis attendre.
Mais alors ça aussi, comme on entendait dans cette archive, c'est une activité qui fait du bien.
Ah, c'est incontestable. Alors c'est vraiment... Alors d'abord, ça a été mesuré hein, que les promenades nature et l'observation de la nature, c'est effectivement bon, par exemple, pour... Enfin, notamment, ce qui a été mesuré, pardon, c'est la proximité aux espaces verts contre les maladies cardiovasculaires. Les Japonais parlent des bains de nature au sens d'un bain purifiant. Et oui, ça fait un bien. C'est extraordinaire. On est bien, on est posé, c'est tranquille.
Ça a été mesuré aussi l'impact de concerts d'oiseaux, comment ça peut suffire à améliorer l'état, le bien-être des gens anxieux.
Complètement, on s'en est aperçu depuis longtemps. S'il y a bien un endroit où on est anxieux ou en tous les cas en stress potentiel, c'est les grandes gares. Et dans les grandes gares, on diffuse des chants d'oiseaux. C'est pour apaiser le truc. Ça fait, oui, voilà, ça, on se sent bien. On a un truc qui coule en nous, là, qui est vraiment agréable.
Alors vous, Grégoire Louis, vous êtes naturaliste amateur, vous n'êtes pas chercheur. Pour vous, on est naturaliste par passion.
J'ai l'impression. En fait, je me suis posé la question il y a une vingtaine d'années avec des jeunes étudiants qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ouais, comment on devient naturaliste ?» Et en fait, quand on m'a posé cette question, je me suis dit « Mais comment on devient mélomane ? Comment on aime la musique ? J'en sais rien, on ne peut pas se forcer, c'est comme ça. » Quand on a l'œil qui est attiré par une pousse de plante, par un insecte ou par... Un pigeon biset qui passe en pleine ville, qu'on est attiré par son vol ou qu'on essaie de comprendre ce qui se fait et tout ça. Mais en fait, c'est ça, naturaliste. On a l'œil qui est tout le temps, ou les oreilles, ou les sens qui sont tout le temps là, repérer une odeur. On passe près d'un terrier de renard qui est occupé. On le sent. Enfin, c'est ça, naturaliste. On peut pas se forcer. C'est un peu en nous. Alors, par contre, on peut l'acquérir. C'est-à-dire qu'on peut avoir ça en soi. Et que ça se développe et que ça se déclare après la retraite ou quoi que ce soit. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Et donc, on peut l'avoir en soi, mais en tous les cas, il n'y a pas le manuel de comment devenir naturaliste, on dit le son. Ça marche pas.
On va parler de votre regard, de votre écoute du monde naturel, mais j'aimerais d'abord qu'on parle de votre parcours. Vous dites que tout part d'une passion pour la nature, une passion dévorante qui remonte à vraiment tout petit. Mais au départ, votre petite enfance, Grégoire Louis, vous l'avez d'abord passé en appartement, il me semble.
Ouais, effectivement. Alors, jusqu'à mes 7 ans, je suis en appartement et donc un petit appartement d'une maison à quelques étages à Viroflay. Et les premiers souvenirs que j'ai qui me marquent, c'est en fait de passer du temps assis dans les escaliers, entre les appartements, des escaliers en bois disjoints, et d'observer les poissons d'argent, les lépismes. Donc c'est ces petits insectes-là qui sont assez primitifs. C'est des insectes, par exemple, qui muent tout au cours de leur vie, qui n'ont pas un nombre de mues défini, comme par exemple la plupart des gros insectes. Et des insectes qui tendent à se planquer de jour. Ils sont vraiment lucifuges. On les voit plutôt de nuit quand
lucifuge,
on rentre dans une pièce.
C'est qui fuit la lumière.
Qui fuit la lumière, ouais. Voilà, exactement. Et donc, on les découvre plutôt en allumant un interrupteur en pleine nuit, dans une salle de bain, une cuisine. Ça part très vite. Et leur nom commun, c'est le poisson d'argent, parce qu'effectivement, l'abdomen est très souple et ils sont assez brillants. C'est vraiment des insectes étonnants. Et donc, quand j'étais gamin, en fait, entre les lames de parquet, même de jour, je pouvais les voir. Alors, quand on est petit, on a un œil... Enfin, on peut se pencher à 5 cm et puis regarder en détail les choses. C'est bien fini depuis longtemps. Mais du coup, c'était ça. Observer ça pendant des heures, alors que c'est pas très actif, mais bon, c'est tellement beau.
Donc pendant des heures, vous les regardez. Et puis, arrive l'âge de 7 ans, vous partez vivre en campagne. Vous avez un souvenir précis de cette découverte de la nature ?
Ben oui, alors au départ c'est un petit peu pas au départ il y avait pas de limite. Moi je suis arrivé dans un tout petit village, 75 habitants à côté d'une commune qu'on avait 2000 à l'époque et donc il y avait pas de limite pour les enfants, on était une dizaine d'enfants. Rapidement en fait mes parents travaillaient tôt, partant tard et tout ça, donc je suis mis en garde avant l'école, après l'école, le mercredi toute la journée dans une famille très très rurale, super sympa, vraiment chouette, deux chasseurs convaincus, il y avait des animaux empaillés partout. Le lundi, il y avait du gibier qui pendouillait partout et en fait là je réalise qu'il y a pas de limite pour les enfants. C'est-à-dire, on part avec nos vélos et la limite c'est de rentrer à l'heure du repas. Mais on peut aller faire des kilomètres, barboter dans les mares, construire des cabanes, faire des glissades sur les étangs gelés. Personne ne nous surveille, personne ne nous dit rien. Donc il y a eu des petits accidents mineurs et tout ça. Mais en tous les cas, tout d'un coup, on fait ce qu'on veut.
Vous dites que vous vous mettez à collectionner des nids d'oiseaux, que vous vous plongez là-dedans, que c'est devenu presque obsessionnel.
Ouais, assez rapidement j'ai collectionné, effectivement je ramassais les reliefs d'or pâle, les vieux os, ça m'a pas vraiment quitté en fait, hein. c'est un peu un toc, et donc de ramasser des vieux nids d'oiseaux, de regarder comment c'est fait, des mues de serpents, quoi. À l'époque on en trouvait pas mal, en tout cas comme je faisais beaucoup de terrain j'en trouvais, et puis même éventuellement d'essayer de voir ce que je pouvais faire avec des animaux morts, si je pouvais garder tout ça, donc essayer de collectionner les plumes, évidemment au moment de la mue, là, en été dans la forêt, on peut trouver des plumes de chouette-ulotte, des plumes de buse, c'est magnifique, la petite plume bleue du jet, tous ces trucs-là, c'était tous les trucs que je ramenais qui sont assez dans ma chambre.
Vous dites aussi avoir lu Marcel Pagnol. Vous avez d'autres souvenirs de vos lectures, de lectures marquantes ?
Oui, alors Marcel Pagnol, c'est vraiment le CM1 et donc les aventures de Marcel et de Lily avec tout leur piégeage qui sont... C'est un peu magique. C'est... Bah oui, j'ai été acheter des tapettes à rats puisque c'est avec ça qu'ils piégeaient beaucoup. J'ai discrètement soustrait la carabine à plomb qui traînait dans la maison pour essayer de tuer des oiseaux et tout. Donc oui, il y avait cette espèce de fascination, d'un coup, cette découverte. L'autre découverte, beaucoup plus tard, c'est quelqu'un dont je me recommande plus du tout, hein, évidemment, c'est Conrad Lorenz. Il parlait avec les mammifères, les poissons, les oiseaux, qui est un bouquin qui est extraordinaire à lire, mais Conrad Lorenz, il est assez illisible maintenant. Malheureusement, c'était pas quelqu'un de très très bien. Et donc ces deux lectures, il y a la première lecture qui me pousse encore plus à aller dehors. J'avais un voisin qui était adolescent, donc qui avait une dizaine d'années plus que moi, qui avait une collection d'ailes d'oiseaux qu'il avait tirées à la carabine à plomb. Et donc je voyais dedans une aile de gros bec, un truc de dingue, des ailes de roitelet, des ailes de grimpro dans son cahier collé grossièrement et tout ça. J'en revenais pas. Évidemment, j'avais envie de ça aussi, quoi. Donc Mais ça m'a quitté assez rapidement.
Ça. Adolescent, vous êtes rapproché de votre prof de bio qui fait des élevages ouais. de blattes.
Ouais.
Plus tard, vous rejoignez donc le Muséum National d'Histoire Naturelle en 1996 pour un premier contrat. Pourquoi avoir voulu vous rapprocher du MNHN ?
Ah, c'était une passion depuis tout petit. Hein. La première visite au muséum, je devais avoir 6 ans peut-être, j'en sais rien. C'était évidemment la galerie de paléontologie. Comme l'écrasante majorité des enfants des deux sexes maintenant, mais à l'époque surtout des petits garçons, je voulais être paléontologue, c'était pas possible. Donc, mais la paléontologie, on est un peu loin de son objet de fascination. Enfin, c'est que à travers des bouquins, donc rapidement ça me quitte. Mais néanmoins, ouais, à la transition troisième seconde, j'adhère à la Société des Amis du Muséum. Hein, il y avait cette fascination. C'était un grand vieux muséum, très Troisième République. Il y avait très le Temple du Savoir. C'est un peu magique. Hein, maintenant, de l'intérieur, je vois que c'est autrement. C'est beaucoup plus vivant que ça. Et donc, il y avait cette espèce de passion. C'était un accomplissement. Après des études vraiment, en touriste, sans succès, je veux travailler dans le monde des oiseaux. Donc, qu'est-ce qu'on trouve quand on est naturaliste ? On trouve des emplois de chargé de mission dans des bureaux d'études pour aller faire des inventaires, essayer de décrire la nature à tel ou tel endroit. Et puis, j'ai même failli me rapprocher de la fauconnerie et de l'autourserie, hein. Puisque j'ai des amis, j'avais rencontré un copain qui travaillait au fonds d'intervention pour les rapaces, qui est maintenant intégré à la LPO. Et au fonds d'intervention pour les rapaces, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de la fauconnerie. Et donc, moi, ça m'avait aussi attiré, parce que avoir une femelle de grand-duc au poing, c'est un shoot. C'est un truc incroyable, il faut faire ça, quoi. Il faut avoir la chance de faire ça. Alors, on peut faire ça avec les voleries, c'est assez extraordinaire. Après, c'est des oiseaux en captivité, bon, voilà, mais sinon, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, finalement, j'arrive à rentrer au muséum sur un poste pour s'occuper d'une base de données des oiseaux bagués. Donc là, le rêve absolu.
Alors, on a fait ce temple du savoir, vous ne l'avez jamais quitté, mais pourquoi les oiseaux ? Pourquoi les piafs en premier choix ?
Les piafs, en fait, j'aime bien dire piafs. Hein. Les piafs, en fait, c'est... Bon, alors, toute la nature, elle est absolument fascinante, il n'y a aucun doute. Et les piafs, c'est les animaux qui sont très mobiles, peu discrets et très accessibles, qui sont le plus accessibles possible. On est à la maison de la radio à côté de la Seine, on peut aller au bord de la Seine, on va voir des goélands, des mouettes, quelques cormorans passés, comme le disait Guillaume, et puis on peut voir un chevalier guignette, les bergeronnettes des ruisseaux qui nichent sur le long, et ça on le voit de jour. Si on devait attendre, par exemple... Voilà, le surmulot, le rat d'égout, c'est aussi un truc qui est assez fascinant à regarder parce qu'ils ont des interactions sociales assez incroyables. On les verra pas là, ou on les verra passer furtivement d'un trou à l'autre. Donc en fait, voilà, les mammifères qui ont moins cette capacité à nous échapper, ils vont être beaucoup plus sauvages. Les reptiles, les amphibiens, c'est pareil, ils vont avoir tendance à se cacher. Les oiseaux, ils savent qu'en fait, un coup d'aile et puis ils nous échappent. Donc en fait, on peut passer du temps à les observer, ils se cachent pas.
On va continuer à passer du temps à les écouter, à les observer avec vous. Quelles sont les particularités physiologiques des oiseaux ? Comment chantent-ils et pourquoi ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Vous écoutez France Culture et la voix de Grégoire Loïs, avec qui nous avons la joie de nous entretenir tout au long de cette heure. On vient de voir que la fascination pour les oiseaux et la nature est née pendant votre petite enfance et qu'elle ne vous a depuis plus jamais quitté. À présent, qu'est-ce qui fait l'oiseau? On écoute cette archive.
C'est incontestablement de tous les vertébrés et de loin celui qui est le mieux adapté à voler.
Mais il y en a qui ne volent pas.
Il y en a qui ne volent pas, mais là, il s'agit d'un retour secondaire, au fond d'une espèce de, je dirais pas dégénérescence, mais de la perte d'un caractère. Non, ce qui fait l'oiseau, c'est véritablement le vol. Et aussi bien pour les morphologistes qui s'occupent de la forme extérieure que pour les anatomistes, au fond, tout a été conditionné par cette absolue nécessité. Que faut-il pour voler? Eh bien, il faut bien sûr tout d'abord des ailes. Les oiseaux en ont, avec cette transformation tout à fait extraordinaire des membres.
Et puis, je crois qu'il y a chez les oiseaux une particularité qui leur permet de voler, c'est la structure de leurs os qui sont très, très légers.
Oui, et alors, les os sont très légers car l'oiseau a une particularité. Nos poumons sont des organes en cul-de-sac. Alors que chez l'oiseau, le poumon se prolonge par ce qu'on appelle des sacs aériens, qui sont de véritables sacs formés d'une membrane, et ces sacs se distribuent dans tout l'organisme, y compris à l'intérieur des os. Au lieu d'avoir une moelle osseuse comme les mammifères ou comme l'homme par exemple, les oiseaux ont au fond de l'air à l'intérieur de leurs os, et ceci constitue d'ailleurs également une de leurs particularités, étant donné qu'on les a comparés à juste titre à un cadre de bicyclette.
Et ceci c'est plein de vide.
Augmente certainement la résistance de l'os, tout en l'allégeant considérablement.
Voilà Jean Dorst, ornithologue, directeur du musée d'histoire naturelle. Une émission, enfin un extrait de l'émission dans les après-midi de France Culture en 1977. Grégoire Loïs, vous aussi, ça c'est un point qui a retenu votre attention, c'est le système respiratoire des oiseaux.
Ouais, le système respiratoire qui est très très particulier. Et d'une manière générale, j'aimerais insister sur ce que dit Jean Dorst. En fait, il y a ce... Ces caractéristiques, même extérieures chez les oiseaux, cette adaptation au vol, ou en tous les cas, cette transformation des membres antérieurs, le plumage aussi, la présence d'un bec sans dents. Et en fait, ça fait quelque chose de très très compact. Il y a 10 000 espèces, mais néanmoins, si on montre des dessins d'oiseaux à un enfant, même tout petit, hein, j'ai des petits enfants maintenant, je peux vous dire qu'à partir d'un an et demi, deux ans, ils savent dire qu'un calao en bois, même très schématisé, c'est un oiseau. Et en fait... c'est pas vrai chez les mammifères. Chez les mammifères, on a longtemps cru que les mammifères marins, c'était plutôt du côté des poissons. Herman Melville, il dit incontestablement un cachalot, c'est un poisson. Il dit, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un poisson. Donc il a vu le pénis extérieur, des trucs qui sont plutôt des trucs de mammifères. Il sait qu'il est obligé de remonter pour respirer, mais il dit, non, c'est un poisson. Et les chauves-souris, on a longtemps cru aussi que c'était des trucs un peu apparentés aux oiseaux. Il n'y a pas cette compacité. En fait, le vol... Ça a conditionné les oiseaux, effectivement, à avoir des traits qui sont extrêmement homogènes au sein d'un groupe extrêmement diversifié. Et ça, c'est assez fascinant. Et concernant la respiration, en fait, il y a deux stratégies assez différentes chez les chauves-souris et les oiseaux. Et c'est assez illustratif de les comparer. Quand on vole, on mobilise des pectoraux absolument surdimensionnés. Alors, il suffit de manger du poulet pour s'apercevoir que les blancs sont deux muscles très secs, surdimensionnés, même pour des poulets de batterie. Et donc, quand on a des muscles comme ça, surdimensionnés pour se déplacer, il y a soit on a une cage thoracique qui est complètement rigidifiée, avec un système respiratoire qui ne repose pas sur des côtes articulées qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est le choix des oiseaux, finalement, avec des entretoises entre les côtes pour rigidifier tout ça. C'est quelque chose qu'ils ont hérité des théropodes. C'était un truc qui était déjà présent chez les théropodes, qui sont aussi complètement fascinants. Enfin, je sais pas, on peut jouer de temps en temps à s'imaginer croiser dans une rue... un T-Rex, on se dit, bon, ce serait absolument hallucinant.
C'est cet théropode, c'est les dinosaures de la famille du Vélociraptor,
voilà,
des Tyrannosaures.
Exactement, des Allosaures, etc. Et donc, il y a ce choix, on a quelque chose de très rigide, et après, pour faire circuler l'air dans les poumons étant eux-mêmes rigides, en fait, ils font un système de soufflet. Et donc, un système de soufflet a deux circulations, donc ça donne un rendement qui est absolument phénoménal.
C'est ça, il y a une circulation d'air en continu.
Ouais, exactement. Et donc, chez les chauves-souris, qui sont des mammifères et qui ont des pauvres poumons pas très performants comme les nôtres, c'est-à-dire que on les remplit, après on est obligé de vider pour les re-remplir, et qui ont aussi des muscles, alors là, pour le coup, dorsaux, les muscles dorsaux pour le vol, mais qui compriment cette cage thoracique, en fait, la respiration, elle est calée sur les battements. Et donc, les cris aussi sont calés sur les battements.
sur ses capacités de vol, les oiseaux ne sont quand même pas tous égaux dans ce domaine, Grégor Loïs.
Ah ouais, c'est extrêmement hétérogène. C'est incroyablement hétérogène. Il y a des oiseaux donc qui sont redevenus aptères, c'est-à-dire en tous les, qui ont perdu la capacité de vol hein, complètement, et qui sont strictement terrestres, voire qui sont à peine terrestres, mais très très bons nageurs. Hein. On pense aux manchots, évidemment, on pense aux kiwis, aux émeus, etc. Et après, même dans les oiseaux qui volent, il y a vraiment des migrateurs très très longue distance. Il y a des oiseaux qui manœuvrent très 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 bien parce que, par exemple, ils chassent en sous-bois d'autres oiseaux, donc il faut pouvoir les poursuivre. Il y a des oiseaux qui ne battent quasiment pas des ailes et qui sont très très forts pour utiliser soit la lame d'air qui circule à la surface des océans, par exemple, soit les champs thermiques, c'est-à-dire les bulles d'air chaud qui montent. Et donc, il y a une hétérogénéité aussi complètement phénoménale. Ce qui est quand même étonnant, hein, ce qui est quand même étonnant, c'est que peut-être qu'avec un regard un peu anthropomorphe, on se dit, ah oui, les migrateurs longue distance, ok, donc ils ont tous des grandes ailes, ils sont très 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 bons pour planer. Et puis on réalise, quand on regarde, il y a un site qui est vraiment chouette à regarder, qui s'appelle crbpodata.mnhn.fr, il me semble. En fait, c'est un site qui cartographie, il y a aussi un site européen comme ça, qui cartographie les données de bagage et de reprise. Donc, on voit à l'endroit où un oiseau a été bagué, à l'endroit où il a été repris. Et moi, je vous engage à... Donc, il y a une espèce de petite interface, on peut choisir l'espèce, le type, etc. On joue, ça nous rend une carte. Il y a un vanneau. Donc, le vanneau, on sait qu'il est migrateur, mais c'est quand même un truc avec des ailes spatulées, un peu, qui a l'air manche quand il y a du vent. Il y a un vanneau qui a été repris au nord de la Mongolie. Et bagué en France.
Mais sur sa carte, justement, quels sont les oiseaux champions de la migration ?
Alors, les champions, on va les trouver parmi les petits, presque insignifiants, peu connus du public. Hein, le gobe-mouche gris, on sait qu'il y a des populations qui sont de l'Est sibérien et qui vont passer l'hiver en Afrique du Sud. Donc là, c'est quand même pas mal. Et puis, chez d'autres oiseaux, les exemples qui me frappent le plus, hein, je suis pas un spécialiste des migrations, mais ça va être par exemple des oiseaux qu'on voit chez nous, par exemple le bécasso maubèche qui va nicher au nord-ouest du Groenland, vraiment au nord-ouest du Groenland, et qui va passer l'hiver en Mauritanie, en passant Islande, Irlande, etc., comme le traquet moteux. Et puis là, j'ai un collègue qui bosse aussi sur les oiseaux, et quelque chose qu'on a découvert il y a une dizaine d'années, en posant des balises, en regardant, etc. C'est les barges qui sont en Alaska, hein, qui traversent le Pacifique en 8 à 12 jours pour certaines d'une traite pour aller en Australie, pour aller passer les plages d'Australie. Donc on s'est aperçu, elles perdent 2/3 de leur poids pendant le voyage. On s'est aperçu qu'elles faisaient dormir alternativement leur cerveau gauche et leur cerveau droit. Parce que le sommeil, c'est un espèce de nettoyeur des toxines qui s'accumulent. Enfin, c'est des choses... On n'a vraiment pas fait le tour.
Hein. Par rapport justement à ces migrations, à ces chemins, haltes migratoires célèbres, la baie de Somme, pourquoi de nombreux oiseaux s'arrêtent là, précisément là ?
Alors, le littoral atlantique, d'une manière générale, c'est un espèce de front sur lequel viennent buter les oiseaux qui viennent d'Orient. Donc les oiseaux qui viennent de la péninsule scandinave et puis encore plus à l'est, de toute le nord de la Russie, la Sibérie, ils descendent et puis ils butent en descendant vers l'Afrique. Ils ont trois gros trajets migratoires. Ils descendent soit par les Dardanelles, hein, Grèce-Turquie, soit par la botte italienne, voire la Grèce éventuellement, puis les petites îles et puis ils rejoignent la Tunisie, la Libye. Soit ils viennent buter sur l'Atlantique et puis ils descendent jusqu'à Gibraltar et ils passent là, quoi. Et donc, effectivement, tout l'ouest de la France, avec une exception pour la Bretagne qui a un peu un effet de péninsule, hein, c'est encore plus particulier, mais en tous les cas, le littoral du nord jusqu'à la Manche et puis ensuite de la Vendée jusqu'au sud, il y a des énormes quantités d'oiseaux qui viennent en buter, et c'est pour ça aussi qu'il y a une tradition de chasse qui est très 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 qui est imprégnée, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de manne qui revient tous les automnes. Après la reproduction, les populations, elles sont multipliées par 2, 3 ou 4, hein, le nombre d'individus. Et la chasse s'est développée parce que tout d'un coup, ça arrive, c'est gratuit, ça donne à manger, etc. Donc ça s'est très, très, très fortement implanté.
Autre exemple, lui, je l'aime beaucoup, un aviateur de l'extrême, le Martinet Noir, que je citais dans mon introduction. C'est fascinant, les capacités de vol. Enfin, cet animal est fait pour l'air.
Ah ben il est surtout pas fait pour la terre en fait, parce qu'il a des pattes complètement ridicules avec quatre doigts dirigés vers l'avant, avec des tarses. Donc le tarse c'est la partie sur laquelle sont plantés les doigts. Nos tarses à nous en fait ils sont sur le dos de notre main. Donc là ces tarses sont soudés et sont très très courts. C'est là-dessus qu'on pose les bagues quand on bague des oiseaux. On a des bagues exprès pour les martinets qui sont moins hautes que les bagues classiques. Parce qu'il a les pattes un petit peu fortes, les tarses sont un petit peu forts, mais par contre très très courts, comme le martin pêcheur par exemple. Et le martinet, il s'accouple en vol, il dort en vol. En fait, la seule chose pour laquelle il se pose, comme quelques autres oiseaux, c'est pour pondre un œuf et élever son jeune et l'amener à l'envol.
Voilà, là on parle des grandes caractéristiques des oiseaux, le vol, évidemment le chant, les sons produits par les oiseaux sont d'une grande diversité là encore.
Ouais, alors ça aussi c'est une spécialisation. Effectivement, les organes d'émission sonore pour les oiseaux sont très particuliers. Ils sont doubles en fait. Ils sont pas situés au bout de la trachée. Ils sont situés à l'endroit où les bronches joignent la trachée. Donc déjà un oiseau peut en fait faire deux mélodies simultanément. Hein. Donc il peut chanter. Et puis il y a une extrême plasticité de la possibilité d'émettre des sons, plus des capacités. Alors je sais pas si c'est cognitif, non, c'est peut-être abusé de dire ça, mais en tous les cas, plus des zones dédiées dans le cerveau à l'émission sonore qui peuvent être incroyables chez certains oiseaux.
Alors qu'est-ce qu'ils nous racontent ces oiseaux? Vous avez, alors, j'imagine que vous devez souvent vous prêter à ce jeu, celui du blind test. Alors là, vous êtes d'accord pour vous prêter à ce jeu-là avec nous également, pour comprendre un peu ce qu'ils nous racontent. Je vous propose à l'aveugle d'écouter celui-ci. Vous reconnaissez ?
Oui, oui, tout à fait, c'est le Pouillot Véloce, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, enfin, en tout cas, qui s'est remis à chanter. On a pas mal de Pouillot Véloce qui passent l'hiver chez nous maintenant. Il s'est remis à chanter il n'y a pas très très longtemps, on peut l'entendre en ville, hein. Il y a des individus qui se font des petites haltes en ville et qui poussent la chansonnette. Il est assez stéréotypé, hein. C'est vraiment zip-zap, c'est comme ça que l'appellent les Allemands, les Anglais l'appellent chif-chaff, c'est assez stéréotypé. C'est un oiseau, alors... Il faudra qu'on parle un peu du sexe des oiseaux chanteurs, c'est absolument magique, mais c'est un oiseau dont j'ai découvert il n'y a pas longtemps que les femelles chantaient aussi.
Est-ce qu'on pensait qu'elles ne chantaient pas ?
Ouais, tout à fait. En fait, il y avait une espèce de biais, hein, qui est vraiment un biais du fait que la science est supposément quelque chose de très objectif et qu'au 17e, au 18e et au 19e siècle, les plus anciens ornithologues célèbres, c'était des hommes qui regardaient les oiseaux et qui avaient assigné des rôles comme ça. Le mâle, c'est celui qui défend le territoire, qui se bat, qui nourrit la femelle quand elle couve. Et la femelle, elle couve gentiment, elle pond des œufs, elle se laisse séduire par un mâle. Tout ça, c'était assez stéréotypé. Rapidement, on s'est aperçu que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait le rôle de la couvaison du nourrissage a été partagé. Par contre, effectivement, la ponte, c'est vraiment dédié à la femelle. Mais il pouvait même y avoir des exemples fameux où... Alors, le mâle, en général, il a une plus belle robe de plumage, hein, parce qu'il y a compétition, c'est-à-dire que c'est la femelle qui va choisir le plus beau mâle, avec le plus beau chant, en général. Ça, on s'en est bien aperçu. Mais il y a quelques espèces chez lesquelles c'est la femelle qui est la plus apprêtée, le mâle qui est le plus cryptique, c'est-à-dire qu'il cherche à ne pas se faire voir par les prédateurs. Et ensuite, c'est le mâle qui couve, etc. Donc, mais il y avait quand même ce biais, parce qu'il y a vraiment un biais très fort, de penser que seuls les mâles chantaient et que les femelles, leur vocalisation, c'était cri d'alarme, cri de quémandage, cri de contact, c'est-à-dire tout le reste du panel des émissions sonores. Et puis, il y a vraiment un peu longtemps, maintenant j'ai un peu honte, parce que moi j'ai découvert ça il y a 5-6 ans, mais en fait en 98, en tous les cas, il y a une chercheuse australienne, et évidemment c'est venu d'une femme qui s'est mise à étudier ce qu'on appelle on pourrait traduire par les troglodytes fées, les fairy wrens, qui sont des petits oiseaux vraiment adorables en Australie, qui n'existent qu'en Australie, qui est un peu la patrie d'où sont nés les passereaux, qu'on appelle maintenant les oscines. Et donc les fairy wrens, elles s'aperçoivent qu'en fait, les femelles, elles chantent. Mais elles chantent un vrai chant, avec une mélodie, etc. Et puis depuis, graduellement, il y a eu plein de travaux qui ont été faits, et maintenant, il y a un site collaboratif où on enregistre, où on peut déposer ces enregistrements de femelles.
par exemple le rouge-gorge, hein, la femelle chante aussi, d'ailleurs, pour tout savoir, pour tout comprendre sur ces biais sexistes dans la recherche en éthologie, notamment, je vous invite à podcaster notre épisode Éthologie, délivrez-nous du mâle. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, mais en tout cas, nous avons aussi ce chant-là, un des oiseaux les plus abondants en France, avec un chant assez stéréotypé aussi.
Alors ça, c'est le pinson des arbres, effectivement. J'ai appris aussi que la femelle chante. On a là un oiseau avec un dimorphisme sexuel très fort. Le mâle, il a une poitrine lit de vin, il est ardoisé, bleu presque. Il est très particulier. La femelle, elle est plutôt terne. On pourrait la confondre avec une femelle de moineau. Elle est béjasse avec des marques à l'air, voilà. La femelle chante aussi. J'en tombe des nues. J'ai jamais vu une femelle chanter. Parce que là, quand on le voit chanter, on peut le sexer directement. Donc, ça reste un événement plus rare, mais elle peut le faire aussi, quoi. Et juste une anecdote, là. J'ai un copain ornitho, là, qui me racontait qu'il avait été bagué. Et souvent, quand on va baguer, on propose à des gens de venir nous aider. Et puis ça les initie, etc. Et donc, entre les tournées de filet, il dit, tiens, mais écoutez, ça c'est le chant du pinson des arbres, et il y a une jeune fille qui était là qui dit, ah, mais c'est celui que mon grand-père, il appelle bibi-bibi-bibi-baba-citrouille. Et donc voilà, un truc mnémotechnique, on en utilise beaucoup, en fait, des descriptions de chants et des trucs mnémotechniques. Le pinson des arbres, c'est bibi-bibi-baba-citrouille.
Il y a des espèces plus difficiles que d'autres à identifier par
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espèces qui imitent. En général, les imitations, c'est des morceaux. C'est des petits morceaux, mais il y a néanmoins des moyens mnémotechniques, hein, sur le chant, hein, je parle strictement sur le chant. En général, le début et la fin d'une phrase, la longueur des phrases, la durée des pauses entre les phrases et la composition structurelle du chant, plus le timbre, ça fait un ensemble d'éléments qui fait qu'on peut reconnaître, quoi.
On a par exemple la mésange charbonnière, hein, qui elle imite tout le monde, notamment ce qui concerne la mésange bleue.
La mésange charbonnière et la mésange bleue, c'est un petit peu le cauchemar en termes d'émissions sonores. À un tel point, c'est que en Angleterre, il y a quand même la patrie du birdwatching, donc de l'activité d'ornithologie amateur. Il y a une phrase qui dit si t'as entendu quelque chose dans une sortie, tu sais pas ce que c'était une mésange charbonnière. Alors, le troglodyte mignon.
Vous êtes incollable.
Ouais, ça
paraît toujours un peu magique pour les néophytes. En tout cas, ça paraît complètement hors de portée quand, en l'espace de deux secondes, on reconnaisse comme ça une espèce.
Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est très impressionnant et je le conçois très bien. Néanmoins, il faut vraiment s'imaginer que c'est très simple. Je sais pas combien de voix humaines différentes on reconnaît au téléphone, dans la rue, etc. Mais c'est absolument considérable. Les morceaux de musique, c'est pareil. Et ben là, c'est pareil. Simplement, il y a une espèce de un petit mécanisme de gymnastique qui se met en œuvre dans nos oreilles. Et on reconnaît après très facilement, les oiseaux, les amphibiens qui chantent, etc. C'est vraiment une espèce de, c'est pas un effort. Ça peut se faire naturellement. C'est une espèce d'habituation de notre cerveau, d'activation peut-être de quelques zones. Donc le troglodyte mignon, un chant extrêmement puissant, qui peut être un chant de colère. Hein. Quand on bague, ça m'est arrivé de relâcher un troglodyte bagué, il se pose vraiment à 80 cm dans un roncier et il pousse une phrase de chant très stridente qui fait presque mal aux oreilles à cette distance. C'est assez rigolo, le troglodyte, c'est un oiseau qui a reconquis l'ancien monde. Donc l'ancien monde, c'est vraiment les limites de l'Alaska jusqu'à chez nous, mais tout seul. C'est-à-dire juste le troglodyte mignon qui est passé, alors qu'il y a 15 ou 20 espèces de troglodytes dans le Nouveau Monde. Donc c'est une espèce du Nouveau Monde qui a traversé Bering et qui a colonisé tout l'Ancien Monde, mais toute seule.
Au fil des 25 années passées au muséum, vous avez suivi les changements qui opéraient parmi les populations d'oiseaux. Alors pourquoi ces oiseaux sont-ils et leurs populations, ces espèces sont-elles en train de s'effondrer? Quels sont les principaux facteurs de cette disparition? Restez à l'écoute, on continue d'en parler.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser.
Le courage des oiseaux sur France Culture. Nous nous entretenons aujourd'hui avec l'ornithologue, le naturaliste amateur au MNHN et le directeur adjoint du programme des sciences participatives, Viginature. Notre invité est Grégoire Loïs. Le courage des oiseaux. Grégoire, Loïs, il faut du courage pour se lancer dans la protection de la biodiversité?
Ah ben incontestablement, parce qu'on a l'impression d'être à rebours d'une évolution naturelle qui fait que ben ouais, l'espèce humaine, elle croît, elle prend toute la place, elle a besoin de ressources. La quantité de ressources par individu, elle a évidemment augmenté, et c'est probablement pas plus mal, parce qu'on n'a plus de problème de malnutrition, en tout cas en Occident. Ou en tous les cas, ça concerne une petite partie malheureuse de la population. Donc, se relancer dans la protection de la biodiversité, c'est tenter de faire comprendre qu'il faut aller de front. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, la malnutrition, c'est inacceptable. Mais ne pas tenir compte de la biodiversité, ne pas tenter de la protéger, c'est aussi scier la branche sur laquelle on est assis.
Pourtant, les oiseaux sont plus protégés que d'autres espèces, alors que les autres espèces ne sont pas du tout moins importantes d'un point de vue écologique. Alors, pourquoi les oiseaux?
Alors, les oiseaux...
On a une directive pour les oiseaux en Europe, par exemple.
Oui, tout à fait. On a une directive européenne Natura 2000 qui est composée de deux sous-directives, directive habitat, directive oiseaux. Les oiseaux, c'est des choses qui sont très visibles, connues du grand public, capital sympathie plutôt élevé pour la plupart des espèces. La loi de protection de la nature en France, c'est 76. La directive oiseaux, c'est aussi à peu près ce moment-là. La directive habitat qui devient, avec la directive oiseaux, Natura 2000, c'est 92. Et en fait, les fauconniers, le milieu de la fauconnerie, qui est plutôt du côté des décideurs, a aussi été moteur. Donc il y a les oiseaux sont retrouvés au premier plan, et effectivement ils sont ni plus ni moins importants, peut-être probablement moins importants que les vers de terre ou les insectes en termes de services rendus à la biodiversité elle-même. Mais par contre ils sont comment dirais-je, quand on protège les oiseaux, on protège aussi un petit peu tout le reste. Donc il y a un petit côté commode au fait d'avoir les oiseaux très bien pris en compte et très bien protégés.
Il y a cette étude, une étude importante parue en mai 2023 dans PNAS, l'étude la plus vaste et la plus complète à ce jour sur les oiseaux en Europe. Sur le continent européen, en 40 ans, le nombre d'oiseaux a décliné de 25% et de près de 60% pour les espèces des milieux agricoles. Un tiers des populations d'oiseaux en France ont disparu en 15 ans.
Ouais, c'est absolument considérable. Alors les populations d'oiseaux, elles fluctuent au fil du temps et les traits changent. Il y a l'air d'avoir des adaptations au fil du temps, donc ça c'est normal. Mais là, ce qu'on observe, c'est quelque chose qui va de concert et dans le même sens. Donc assez catastrophique, hein, on peut utiliser ce terme. Il y a vraiment littéralement une catastrophe. Et on a été conduit jusque récemment à émettre des hypothèses sur les causes de cette disparition. ce qui est assez confortable pour les gens qui ne veulent pas qu'on parle de disparition des oiseaux parce que ça va à l'encontre de leurs activités. Et donc, le problème de constater simplement une tendance, c'est qu'en fait, on n'a pas force de la preuve. On n'a pas la force de la preuve, évidemment. On peut pas faire une expérience. On peut pas avoir quelque chose de reproductible. Donc, on émet l'hypothèse qu'effectivement, il se passe quelque chose dans les milieux agricoles puisque c'est là que ça se passe. On avait sorti quelque chose en 2017. Je me souviens d'un collègue qui, dans les médias, s'est trouvé confronté avec quelqu'un qui disait que non, il n'y avait pas de problème et qui lui a dit « mais non, c'est les éoliennes ». Enfin, ça devient n'importe quoi. Alors effectivement, le sujet des oiseaux, c'est compliqué. On a des populations qui sont transsahariennes. Le sujet du Sahel, dans les années 70-80, c'était assez dramatique pour les populations transsahariennes. On a des populations qui sont très prolifiques, on a des populations qui font un jeune par an, enfin des espèces pardon qui font un jeune par an, etc. Il y a une grosse diversité, mais néanmoins il y a quelque chose de très fort. Et là, il y a eu cette publication qui a montré avec Sébastien Rigal, sauf erreur, en première hauteur, qui a réussi à déterminer les causalités, à hiérarchiser les causalités. Alors.
Cette étude, en effet, lève le voile sur les facteurs en cause dans cet effondrement.
La méthode utilisée, elle est assez, d'après ce que j'ai compris, elle est moderne et ça repose sur des mathématiques un peu complexes. Mais l'idée, c'est qu'en fait, un effet, il est toujours à la suite d'une cause et que donc, si on a des éléments asynchrones dans le temps, comme ça, on peut déterminer quelles sont les causes et hiérarchiser quelles sont les causes. Et évidemment, ou en tous les cas, comme c'était présumé, comme c'était émis comme hypothèse, eh ben, le changement très très fort des pratiques agricoles qui s'est accompagné de rendements très forts et d'une production qui nous met à l'abri de problèmes de famine, etc. Mais il s'est accompagné aussi d'une érosion de la biodiversité absolument considérable. Et là encore, les oiseaux, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'en fait, ce déclin de cette érosion de la biodiversité des milieux agricoles, elle est probablement transversale sur l'ensemble du vivant. Elle ne concerne pas que les oiseaux.
Mais alors pourquoi justement cette intensification de l'agriculture intensive est-elle la principale cause du déclin des populations d'oiseaux ?
Les autres facteurs de déclin, ils ont été assez bien isolés et décrits avec des initiatives comme l'IPBES, par exemple, qui est l'équivalent du GIEC. Mais pour la biodiversité, concernant la biodiversité, et donc il y a le prélèvement direct pour les oiseaux d'Europe de l'Ouest. Non, c'est pas. Enfin, je veux dire, la chasse, c'est quand même, si on a beaucoup d'espèces chassables en France, c'est vraiment pas ça. Il y a la pollution des milieux, mais alors du coup, l'agriculture, elle a aussi ça dedans. Le réchauffement climatique, effectivement, c'est aussi un facteur. Mais la rotation des pratiques, l'utilisation d'intrants, qui sont des intrants qui mobilisent des biocides, hein. On appelle ça des biocides, donc des choses pour se débarrasser des compétiteurs de l'agriculture, que ce soit des champignons, des insectes ou des herbes qui sont en compétition avec ce qu'on essaie de faire pousser. Ben en fait, la plupart du temps, c'est des molécules qui attaquent des fonctions qui sont assez basiques dans le vivant. Donc les néonicotinoïdes, par exemple, on sait qu'ils attaquaient les neuromédiateurs, dont l'acétylcholine. C'est quelque chose qui est vraiment ultra répandu dans le vivant. Donc en fait, on pense, il y a assez peu de biocides qui ciblent simplement une petite partie du vivant. Forcément, c'est très large spectre.
Cette disparition des oiseaux, c'est quelque chose que vous racontez également dans votre ouvrage « Ce que les oiseaux ont à nous dire » qui est paru en 2019 chez Fayard. Je vous propose à nos auditeurs de savourer votre plume. Le premier chant que j'ai appris malgré moi, à force d'en être imprégné tant il était omniprésent, est celui de l'hirondelle rustique. Contrairement à la plupart des oiseaux chanteurs, qui s'excluent territorialement par la mélodie, cette dernière chante en groupe. Les mâles sont posés les uns contre les autres sur un fil téléphonique. D'autres volent en grande glissade, coup d'aile, virage aigu, remontée à la verticale. Boucle sublime que Paul Géraudet lui-même, ayant littéralement consacré sa vie à cette espèce, renonce à décrire, tant elles sont variées, virtuoses et sans fin. Même Paul Géraudet a renoncé, sans le dire aussi franchement, à décrire le chant de l'hirondelle rustique, sublime et insaisissable musique, qui s'interrompt, ça et là, de cris de cohésion, signalant aux autres membres de la communauté la position de l'individu. on pourrait tenter de l'évoquer en soulignant sa ressemblance avec le discours continu, mais haché, précipité, que produirait un toxicomane sous l'emprise d'amphétamines et désirant dire quelque chose d'important. Des phrases débutant par quelques notes isolées, explosives et zézéyées, suivies de cascades de syllabes couinantes, glissantes, grinçantes, sans jamais être désagréables. Babille, commençant haut, puis graduellement décrescendo, allitération en zv, entrecoupée de trilles descendant et ralentissant, de coups crépitements liquides et exténués d'une demi-douzaine de claquements, pour reprendre aussitôt cette course effrénée de son. Ce chant m'a habité de mes 7 à 10 ans. Ce chant aussi familier que la voix de mes proches, aussi mythique et légendaire pour l'ornithologue que je suis, s'évanouit aujourd'hui de nos campagnes, lentement, mais semble-t-il, sûrement. Grégoire Louis, pourquoi le chant des hirondelles de cheminée s'évanouit-il ?
Alors on est là avec... Alors c'est probablement une espèce qui bénéficiait beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'attraction animale qu'on a utilisée pendant plusieurs milliers d'années, hein, parce que l'attraction animale, elle va aussi avec son cortège d'insectes qui vivent dans le crottin, les bouses, etc. Et donc elle a probablement lourdement payé le fait qu'on ait remplacé l'attraction animale par de l'attraction avec des moteurs thermiques. Et qu'on... Il y a ça, et puis il y a le fait probablement que l'élevage est devenu beaucoup en stabulation et qu'on a utilisé massivement des insecticides. Avec l'hirondelle de cheminée ou l'hirondelle rustique, hein, on a une espèce qui est vraiment strictement insectivore. Elle ne sait rien manger d'autre, elle ne peut rien manger d'autre. Et donc les quantités d'insectes sur ce genre de petits oiseaux, les quantités d'insectes consommés sont quasiment égales à leur poids chaque jour. Vous imaginez bien que pour ramener 4 jeunes à l'envol, il peut y avoir des périodes de famine. Et donc en fait c'est cette famine, c'est pas une mortalité directe, c'est pas un empoisonnement qui fait que les hirondelles tombent au sol empoisonnées en fait. C'est simplement que graduellement les adultes survivent moins vieux, ils ont plus de mal à amener 4-6 jeunes à l'envol chaque année, et donc petit à petit la population comme ça elle décline. C'était une espèce lors de l'apparition du premier atlas des oiseaux nicheurs de France en 76, on considérait que c'était probablement dans les 3 espèces les plus abondantes de France, les plus vraiment avec les populations les plus grosses. C'est loin d'être le cas maintenant. Ça a complètement, personne n'oserait imaginer un truc pareil aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, par rapport à cette crise environnementale, il y a divers changements qui affectent les populations d'oiseaux communs ou rares. Il y a beaucoup de perdants et très peu de gagnants. Quelles sont ces espèces ?
Les espèces gagnantes ?
Oui, par exemple.
Alors les espèces gagnantes, alors on a remarqué avec des collègues que parmi les espèces gagnantes, il y a par exemple les colombidés, donc le pigeon colombin, qui est un pigeon qui était plutôt forestier, discret. Quand j'ai débuté l'ornitho, j'étais content de voir un pigeon colombin. Maintenant, il y en a à peu près partout. Je l'entends chanter dans mon appart à Paris à travers le conduit de cheminée. Et le pigeon ramier aussi qui est partout. Et en fait, il y a quand même quelque chose de saisissant. Les colombidés, ça fait partie des seuls oiseaux qui ne reposent pas sur les insectes au moment de l'élevage des jeunes comme apport en protéines aux jeunes, qui est indispensable. Même les oiseaux granivores consomment des insectes au moment de l'élevage des jeunes. Les colombidés, en fait, ils activent le gène de la lactine dont ils sont porteurs. Même les insectes sont porteurs du gène de la lactine. Et donc, les colombidés, ils font littéralement un lait qui synthétise avec une nourriture, sur la base d'une nourriture qui est strictement végétale. Et en fait, ils régurgitent ce lait dans le jabot de leur poussin. Et donc, c'est quand même assez perturbant, mais encore une fois, on n'est que sur l'émission d'hypothèses, de constater que les 2 espèces de colombidés qui vraiment ont une croissance exponentielle ces 20 dernières années, que ce sont des espèces qui ne dépendent pas des insectes. Quoi. Donc,
c'est ça, et ça veut dire que les espèces perdantes, ce sont ces espèces qui sont très spécialisées.
Voilà, les espèces qui sont spécialisées en habitat, elles sont en général peu plastiques. Spécialisées, on pourrait le formuler autrement, ce sont des espèces qui ont une capacité d'adaptation à utiliser un autre milieu, un autre habitat, parce qu'en général c'est spécialisé à l'habitat, qui est très faible. Si elles nichent en forêt, elles nichent essentiellement en forêt, et s'il y a un problème en forêt, elles sont pas capables d'aller nicher en campagne ou en ville.
Le problème aussi actuel, c'est que même les espèces généralistes commencent à décliner. On l'observe en France ces 15 dernières années. Je reviens à cet extrait et à votre ouvrage, Ce que les oiseaux ont à nous dire. J'ai l'impression, à vous lire, que vous avez écrit ce livre pour nous émerveiller de ce monde. Vous partez du principe qu'on ne protège que ce que l'on connaît et ceux que l'on aime ?
Oui, 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 oui. L'idée, c'était de créer de l'empathie. Hein. L'idée, c'était vraiment... Les oiseaux n'ont rien à nous dire de particulier. Mais on pourrait s'imaginer que si on leur donnait la parole, ou en tous les cas, ils nous disent des choses, mais sans les émettre. C'est pas un discours qu'ils nous font. Si on les regarde, en fait, on peut en conclure qu'on peut interpréter tout ça et se dire, ah oui, non, non, mais ils nous disent un truc sur la disparition de la nature qui est assez dur. Et effectivement, créer de l'empathie, essayer d'émerveiller, c'est une des clés pour qu'on prête attention, finalement.
Prêter attention, ça c'est une belle transition qui m'emmène vers ce projet vous êtes le directeur adjoint de Viginature, un programme de sciences participatives du MNHN. C'est un projet notamment porté donc par le Muséum, mais aussi en collaboration avec l'ALPO et l'OFB. On peut peut-être, pour conclure, on arrive en fin de cette discussion, mais rappeler quelle est l'importance d'un programme de sciences participatives comme celui-ci.
Alors d'abord, les sciences participatives, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui sont pas payés pour faire de la science et qui font de la science. Donc ça peut être des gens qui sont très très compétents dans leur domaine scientifique, mais qui restent amateurs, comme ça peut être le grand public. L'originalité de Viginature, c'est d'avoir ouvert les sciences participatives, qui ont plusieurs siècles, au grand public. Et qu'est-ce qu'on a demandé au grand public, en fait ? En France, la puissance publique, elle met des moyens dans, par exemple, le comptage des espèces qui sont liées à des activités récréatives comme la chasse ou la pêche en eau douce, des choses comme ça. Elle met de l'argent pour mesurer le temps et la météo, évidemment, parce qu'il y a plein d'enjeux. Mais il n'y a pas de moyens, finalement, pour aller compter les papillons et les petits oiseaux. Et donc, les papillons, les petits oiseaux, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, en quelque sorte, une espèce de thermomètre du vivant, une thermomètre de l'état de santé de la nature. Et pour faire ça, ça vient du monde anglo-saxon, on s'est reposé sur le grand public pour compter des choses très très simples et très très simplement.
Ça, c'est, Viginature, ça a débuté en 1989 avec la mise en place du suivi temporel des oiseaux communs. L'objectif, c'est en effet, donc, comme vous dites, de récolter de la donnée en grande quantité pour faire ces études. Ça permet aussi aux citoyens qui s'engagent de comprendre les enjeux qui pèsent sur la biodiversité. Les enjeux et les objectifs sont aussi politiques.
Bien sûr. En fait, les enjeux, ils sont bien sûr politiques parce qu'en fait, ces signaux qui sont très intéressants pour les biologistes fondamentaux, les écologues, même en biologie appliquée, en fait, il s'agit aussi de les utiliser comme alarme, comme sonnette d'alarme. On a, quand on regarde les oiseaux ou les papillons, on fait finalement exactement la même chose que ce que faisaient les mineurs quand ils descendaient des serins en cage dans les mines, parce que les serins sont très sensibles au monoxyde et au dioxyde, et puis quand on voyait un serin qui calanchait sur le fond de la cage, on disait, bon, allez, tout le monde remonte. Et donc, on fait pareil. Là, avec les oiseaux, on a ces résultats, mais en fait, on est en train d'étendre ça, et notamment, notre projet, là, c'est d'étendre ça à la flore. On a un programme qui s'appelle Vigiflore, qui est fait avec des botanistes, qui compte de manière répétée et standardisée. Alors, c'est absolument capital dans les sciences participatives, c'est de compter tout le temps de la même manière. On est un peu l'INSEE de la nature. On fait vraiment du sondage. Et donc, avec les résultats Vigiflore, il y a une collègue, Gabrielle Martin, qui a soutenu sa thèse il y a 7 ans maintenant, et qui est maintenant en poste à Toulouse comme enseignante-chercheur, qui a montré des choses absolument capitales. Les résultats qu'on a, et c'est sur ça qu'on veut baser des indicateurs, c'est que, par exemple, les plantes qui dépendent des insectes dans leur reproduction, que ce soit pour la dissémination des graines ou la pollinisation, l'échange de gamètes, vont moins bien que les plantes qui se reposent sur le vent ou d'autres méthodes. Les plantes, d'une manière générale, les plantes qui sont de milieux froids ou d'obédience froide vont moins bien que les chaudes. Donc on voit qu'il y a des effets. Et on souhaite construire des indicateurs là-dessus.
En tout cas, cette Viginature est ouverte pour n'importe qui. Pas besoin de compétences particulières. On vous a posté sur notre fil Blue Sky les informations pour tout comprendre justement sur ce projet. Dans quelques secondes, et comme tous les jours, on retrouve Alexandre Morales. Mais pour prolonger l'écoute, rendez-vous en librairie ou en bibliothèque pour l'ouvrage de Grégoire Loïs, Ce que les oiseaux ont à nous dire, paru en 2019 chez Fayard. Mais c'est aussi en livre de poche. Merci beaucoup, Grégoire Loïs.
Merci beaucoup, beaucoup.
Merci à vous. Tout de suite, un tout autre sujet. On quitte la forêt pour le cosmos et le Big Bang. C'est la chronique avec science.
Vivons-nous la fin de la théorie de la constante cosmologique ? Notre histoire commence par une explosion primordiale, le fameux Big Bang, après lequel la matière s'organise à travers l'univers, en filaments et en galaxies notamment. Et comme on peut s'y attendre après une explosion, l'univers est en expansion et il continue de croître. Mais la matière étant soumise à la gravité, on devrait observer un ralentissement de cette croissance du fait de l'attirance des objets entre eux. Or, c'est tout l'inverse qui se produit. À la fin des années années 90, les scientifiques ont observé des supernovas, ce sont des explosions d'étoiles en fin de vie, et ils ont remarqué que certaines d'entre elles étaient moins lumineuses que ce à quoi ils s'attendaient. Ce qui veut dire que la distance entre elles et nous est plus grande que ce qu'elle devrait être, et ça a conduit les scientifiques à penser que l'expansion de l'univers, loin de ralentir, était en fait en train d'accélérer. C'est complètement contre-intuitif, et pour expliquer ça, les scientifiques ont proposé le concept d'énergie sombre. C'est un composé présent dans l'univers et qui serait à l'origine de son expansion. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le définir précisément. Dans notre modèle actuel, nous supposons que l'énergie noire a des propriétés constantes dans l'espace et le temps. C'est ce qu'on nomme la constante cosmologique. Pour étudier cette énergie noire, une collaboration internationale a été mise en place. Elle s'appelle DESI et nous révèle ses derniers résultats dans une série de nouvelles publications. Pauline Zarou, qui est cosmologiste au CNRS, au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies à Sorbonne Université. Elle a participé à ces recherches.
La collaboration DESI, donc pour Dark Energy Spectroscopic Instrument, un instrument spectroscopique pour sonder l'énergie noire, est une collaboration donc internationale qui rassemble plus de 900 chercheurs répartis dans 70 institutions du monde entier. Et l'objectif, c'est donc d'aller essayer de sonder, de traquer la nature de l'énergie noire qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et pour le faire, on utilise le télescope Mayall à l'observatoire Kitt Peak, qui est un télescope qui, toutes les nuits, va observer le ciel et va, toutes les 20 minutes, collecter la position de 5000 galaxies simultanément. Donc, toutes les 20 minutes, on a la position de 5000 galaxies. Et donc, au final, on arrive à cartographier l'univers pour obtenir là donc un échantillon qui contient la position de 15 millions de galaxies qu'on a observé pendant 3 ans.
Et la grande innovation de ce télescope, c'est son immense précision qui permet de caractériser finement les galaxies observées. On sait si elles sont jeunes ou plus âgées, et puis surtout la distance à laquelle elles sont situées par rapport à nous. Et grâce à ça, les scientifiques ont produit des cartes en 3 dimensions de l'univers. Ils ont ensuite mesuré la distance entre les galaxies à différents âges de l'univers pour comprendre comment se déroule l'expansion. On peut créer comme ça un étalon, un modèle basé sur des observations de la manière dont l'univers croît, et les scientifiques peuvent ensuite confronter ces observations à différentes théories. Au modèle actuel où la croissance se fait de manière constante, ou alors à un modèle où l'énergie noire aurait des propriétés qui varient au cours du temps. De cette manière, on peut dire quel scénario est à privilégier. Alors, que disent les résultats? Après 3 années d'observation, les scientifiques de la collaboration DESI mettent en lumière les limites de notre modèle cosmologique classique. En d'autres termes, les observations du déplacement des galaxies ne correspondent pas à ce que prédit la théorie basée sur une énergie noire aux propriétés constantes au cours du temps.
Ce modèle peine, a du mal à expliquer toutes les observations que nous pouvons faire de notre univers. Donc, quand nous combinons nos nouveaux résultats avec l'analyse des premiers photons qui sont émis dans l'univers, ce qu'on appelle aussi le fond diffus cosmologique, avec également ces explosions d'étoiles, les supernovas dont je vous parlais au début et qui a conduit à la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers, quand on combine ces 3 types d'observations différentes de l'univers, on confirme ce que nous avions vu il y a un an, mais avec davantage d'importance, on confirme la préférence des données pour un modèle où l'énergie noire varie au cours du temps. Et on n'a pas encore atteint le seuil de découverte, parce que bien évidemment, à chaque fois, on compare par rapport à la précision avec laquelle on peut faire la mesure. Donc, on n'a pas encore atteint le seuil de découverte, mais on s'en est rapproché en rajoutant 3 ans de données.
Et après avoir répertorié près de 40 millions de galaxies, le fait que ces conclusions se renforcent encourage les scientifiques à rechercher un modèle plus complexe et non constant de l'accélération de l'expansion de l'univers. Nous vivons peut-être les débuts de la fin de la constante cosmologique qui pourrait prochainement être supplantée par une nouvelle théorie physique.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Merci à la technique. Aujourd'hui, à Élise Leu, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.